la convention annuelle de l'ANACOFI, jeudi 7 avril 2022 au Carrousel du Louvre sur Radio Patrimoine.
Bonjour à tous, nous sommes toujours en direct du Carrousel du Louvre, convention ANACOFI édition 2022. Après avoir passé notre tour pendant quelques années, nous sommes en compagnie de Sébastien Raspiller. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Vous êtes chef de service financement de l'économie, direction générale du Trésor. Voilà un titre qui en jette, mais qu'est-ce que vous faites exactement ?
Alors le cœur de métier du service, c'est d'écrire, d'élaborer la réglementation, la législation en matière financière. C'est tout ce qui est cadre prudentiel des acteurs financiers, banques, assurances, la réglementation des marchés financiers, également de l'épargne, que ce soit l'assurance vie, l'épargne réglementée, livret A, livret de développement durable, et puis l'épargne au sens large, les comptes titres, le PEA, le plan d'épargne retraite.
Avec effectivement pas mal d'innovations ces dernières années, le grand succès du plan d'épargne retraite bien évidemment. Une question néanmoins sur cette avalanche de réglementation, en tout cas qui a touché le secteur au cours des dernières années, post-crise financière, c'est sûr qu'il fallait faire quelque chose. Est-ce qu'on en est au bout ou est-ce qu'il y a toujours plus de réglementation qui va arriver ?
Alors le premier aspect important à avoir à l'esprit, c'est que la réglementation des acteurs financiers est, pour une part de plus en plus grande, réalisée au niveau communautaire, donc au niveau européen, avec des propositions de la Commission européenne qui sont ensuite discutées par les co-législateurs, le Conseil européen et le Parlement européen. Ça s'est fait beaucoup post-crise financière, sur des domaines extrêmement variés, mais touchant aussi sur la distribution, par exemple, de l'épargne. Ce qui est prévu dans ces réglementations européennes, ce sont des clauses de revue relativement régulières. Donc, quand on pense à la réglementation prudentielle des assureurs, on parle de solvabilité 2. Oui. Là, on est en train de faire la révision de solvabilité 2. Alors, on ne parle pas de solvabilité 3, mais peut-être que ça viendra.
2 bis, en tout cas.
Voilà. Sur les banques, on a la transposition du paquet Bâloise, les accords de Bâle, qui va se transformer en CRD 6, D pour directive, CR 3, R pour règlement. Donc vous voyez qu'on, c'est comme pour les séries de films, hein, on met des numéros à la, au bout.
Quand il y a une bonne série, on la continue. Finalement.
Exactement.
Est-ce que on peut se poser la question, c'est sûr, sur ces réglementations. On l'a compris au niveau donc européen et ensuite qui est appliqué chez nous. Est-ce que ça protège vraiment le citoyen ? Est-ce que ça améliore les choses ? Est-ce que vous avez vu, parce qu'on a le sentiment, en tant que consommateur, qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous demande de plus en plus de formulaires, de KYC, Know Your Customer, on déclare dans tous les sens et ce très périodiquement. Pour autant, est-ce qu'on est mieux protégé ? Puisqu'on entend toujours parler des mêmes arnaques, des mêmes gens qui tombent dans les panneaux, justement, des arnaques financières, par exemple.
Alors, si je prends une vue d'ensemble, ce qu'on a connu ces dernières années, avec un choc exogène absolument massif, jamais vu, pour moi, est un témoignage de la résilience du secteur financier européen, et notamment français. Parce que pendant cette période, vous avez eu un secteur financier qui a répondu présent, déjà pour assurer ses missions usuelles, mais aussi pour être le relais de décisions prises par l'État et transmises à tous les acteurs économiques. Je pense en particulier aux prêts garantis par l'État en bénéficiant du réseau de distribution des banques.
Et il faut le souligner, c'était extrêmement efficace et bien fait, notamment par tous les acteurs bancaires, on peut le rendre hommage.
Tout à fait. Ça a été fait en coopération et une distribution très massive, très rapide. Ça, c'est un point fondamental. Il ne faut pas l'oublier, en 2008-2009, la France était avec le Canada le seul pays de l'OCDE à ne pas avoir coûté d'argent à ses citoyens par rapport à la crise financière. C'est un enjeu premier de sécurisation de l'épargne, des dépôts bancaires, ce genre de choses. Vous n'avez pas de risque en matière de stabilité financière par rapport aux acteurs, que ce soit bancaires ou assurantiels. Et ça, c'est grâce aux réformes qui ont été mises en œuvre après la crise financière.
Donc le renforcement des fonds propres, par exemple. Exactement. La structure des banques qui a changé, la structure bilancielle.
Voilà, la structure bilancielle des acteurs qui s'est renforcée sans mettre à bas leur capacité, évidemment, à financer l'économie. En matière d'épargne, qui est plus spécifiquement votre question. Envie de dire que le mieux peut être l'ennemi du bien, et donc vous rejoindre en partie. Il y a des réglementations visant à protéger l'investisseur. Protéger l'épargnant, qui s'est porté beaucoup par rapport aux intermédiaires, parce qu'on est dans un champ où beaucoup d'épargnants ont encore besoin de conseils, notamment humains, un contact humain. Et donc ça s'est porté beaucoup sur les intermédiaires, avec un effet, par ailleurs, côté intermédiaire, de protection supplémentaire, quelque part de surconformité. Donc vous avez des textes qui sont très protecteurs, vous avez une interprétation de ces textes qui est encore plus protecteur de la part des autorités de supervision, mais aussi de la part des acteurs financiers eux-mêmes, qui fait qu'à la fin, c'est très compliqué pour un conseiller bancaire, par exemple, de conseiller directement à un de ses clients une action française des jeux quand elle est privatisée. Est-ce que c'est le résultat qu'on souhaite ? Par rapport aux enjeux de financement de l'économie en France, mais aussi au niveau européen, notamment des grandes transitions, par rapport aux besoins de dynamiser le tissu productif, on a eu beaucoup de débats l'année dernière, notamment sur le renforcement des fonds propres des entreprises. Évidemment, ce sont des actions qui nécessitent une prise de risque supplémentaire par rapport à des produits tout à fait garantis.
Ces fameux fléchages de l'épargne sur des actifs plus
fléchage,
risqués.
Nous, on ne flèche rien. Côté incitation. État, incitation, ou en tout cas, enlever les mauvaises incitations, c'est-à-dire les incitations aussi contradictoires avec ça. C'était notamment le cas avec l'instauration du prélèvement forfaitaire unique en 2017. Donc on a des réglementations européennes qui sont très protectrices et qui prennent peut-être pas assez en compte le couple rendement-risque, qu'est-ce qui est bon pour les épargnants, avec une focale excessive sur pas de risque, qui renforce quelque part un tropisme naturel des épargnants. Mais dans un environnement de taux bas, voire très bas, voire négatif, un peu dommage quand même qu'il n'y ait pas eu de focale sur mais le rendement à la fin.
Alors est-ce que ça peut changer ? Voilà, en 2022, bon, on est la veille d'élections présidentielles. On n'entend pas forcément les candidats s'exprimer sur ce sujet, beaucoup sur l'IFI, le retour de l'ISF, voilà, des grands épouvantails comme ça qu'on agite. Mais au final, sur notre épargne à tous, français, est-ce que ça peut changer ? Est-ce que justement, on peut inciter les Français à voilà, desserrer le cordon de la bourse, on sait que l'épargne est abondante en plus, pour aller sur des placements plus risqués ? On pense aux actions. Alors, ponctuellement, ça peut baisser, ça peut être très volatile, on l'a vu ces derniers mois, ces dernières semaines. Mais sur le long terme, on sait très bien que c'est un placement quand même qui est plus avantageux, on va dire, pour l'ensemble des Français.
Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout minimiser ce qui a été mis en œuvre avant la crise sanitaire et dont on peut bénéficier aujourd'hui. Typiquement, le plan d'épargne retraite. Le plan d'épargne retraite, par définition, ce sont pour des gens qui ont envie d'économiser, envie de leur retraite. Il y a un horizon de temps qui permet des allocations d'actifs, d'épargne, générant un meilleur couple rendement risque pour les épargnants. Les épargnants qui investissent dans leur plan d'épargne retraite n'ont pas besoin de libérer de l'argent le lendemain où de je vous parle, parce qu'ils l'ont quelque part réservé pour leur retraite. Il serait dommage, en premier lieu pour l'épargnant, de ne pas tirer profit de cette capacité d'épargne longue pour en tirer un rendement qui soit satisfaisant. Et ce qu'on observe, c'est une capacité, notamment de la part des compagnies d'assurance, qui s'en sont saisies pleinement, d'orienter pour des épargnants ayant ce besoin davantage vers le plan d'épargne retraite que vers l'assurance vie, permettant une allocation plus rémunératrice sur le moyen long terme, en espérance de rendement, évidemment.
Bien sûr.
Mais avec aussi une capacité, via la gestion pilotée par Horizon, de sécuriser au fur et à mesure que la sortie du produit approche.
C'est ce qu'on appelle la désensibilisation, c'est-à-dire on prend de moins en moins de risques au fur et à mesure qu'on avance en âge.
Exactement. Et ça, c'est une gestion intelligente. Elle est par défaut dans le plan d'épargne retraite, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un choix positif, conscient de l'épargnant, pour y déroger. Mais c'est par défaut, c'est aussi parce que c'est ce qu'il y a de plus sécurisant, quelque part, pour l'épargnant, quand c'est utile, en termes de timing, pardon pour l'anglicisme, mais en même temps, tout en lui permettant de profiter d'espérances de gains bien plus importantes. Et quand on bloque sur 10 ans, pas faire un cours sur les intérêts composés, c'est un peu de mathématiques, mais c'est assez visible sur une petite table, ça peut rapporter gros à la fin.
Bien sûr. Et grand succès hein, du PER, on est à plus de 2 millions d'ouvertures, peut-être même 3 millions à l'heure où on parle, avec cet irritant qui a été enlevé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sortie en rente, c'est ce qui a fait le succès aussi du produit. Une dernière question, Sébastien Aspire, c'est sur... ce qui se passe actuellement, on parle beaucoup d'inflation, retour de l'inflation, on le voit dans les prix à la consommation, on le voit pour les automobilistes à la pompe tous les jours. Est-ce que c'est un sujet qui inquiète au Trésor dont on parle et qu'on peut adresser?
Alors, je vous rassure, on en parle, évidemment. Je pense même qu'on en a parlé entre nous un peu avant que les médias, ou en tout cas les économistes publics, n'en parle.
C'est-à-dire, vous le pressentiez, vous saviez qu'on ne pouvait pas rester comme ça, des taux zéro négatifs.
Oui, déjà, il y avait quand même un souhait qu'à un moment donné,
on normalise la situation.
Se normalise. Mmh. Après, la question, c'est plutôt le rythme. Évidemment, les événements tragiques peuvent accélérer certaines décisions. Donc ça, c'est un enjeu fort, une capacité qui relève de la politique monétaire, donc notamment indépendante des gouvernements, de maîtriser une remontée des taux. Le deuxième point, c'est que la crise sanitaire a désorganisé certaines chaînes d'approvisionnement. Et ça, c'était déjà présent à partir de 2021-2022. Et par exemple, ce qui se passe sur le plan sanitaire en Chine est un sujet, évidemment, de vigilance par rapport aux chaînes d'approvisionnement qui ont été mondialisées. Le fait est que l'invasion russe de l'Ukraine provoque une montée des prix de matières premières qui alimente une inflation, et on voit des niveaux qui sont très conséquents. Mais premier point, si ça ne satisfait pas notamment les citoyens et les concitoyens, mais le taux d'inflation en France est plus faible qu'ailleurs en Europe, du fait d'une moindre dépendance, premier point, et deuxième point, du fait des mesures qui ont été mises en place, notamment de boucliers tarifaires, donc une moindre inflation en France, pour autant des niveaux qui sont quand même relativement élevés, et une certaine incertitude sur la durée de cette inflation. Alors, thématique forte, évidemment, au cœur des préoccupations des gens, c'est le pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, notamment des ménages modestes, pour assurer les fins de mois. Donc des mesures qui ont été mises en place directement avec la ristourne à la pompe. Premier ministre, ça dépendra des élections, mais qui a pu annoncer qu'il pourrait y avoir d'autres mesures par la suite, post-élection. Ça, c'est le premier aspect. Sur l'épargne, vous avez eu ce qu'on appelait la surépargne Covid. Pour les ménages modestes, le Conseil d'analyse économique, dans son étude, démontre qu'elle a pu être déjà consommée. D'où vraiment une vigilance et une focale importante sur ces ménages modestes. Pour les ménages un peu plus aisés, il reste un coussin d'absorption fort, qui peut être assez important. Ensuite, pour les épargnants, on va dire, c'est vraiment le moment aussi pour les conseillers de se poser les questions sur les allocations, parce qu'il y a des moyens de se protéger de l'inflation. Évidemment, si vous voulez quelque chose qui est totalement garanti en capital à tout instant, totalement liquide tous les jours, vous allez sur des types d'actifs qui sont particuliers, qui sont les obligations, notamment les obligations souveraines. Le problème, c'est que dans une période de remontée des taux, c'est pas forcément le meilleur placement, mais vous avez d'autres types d'actifs, et donc simplement, ça nécessite de prendre peut-être un peu plus de risques. C'est là où le conseil est vraiment très important. Et dans le couple rendement-risque, par rapport à un horizon de temps d'épargne ou ce genre de choses, il y a des questions à se poser. Toujours est-il que dans une période avec une inflation aussi de nouveau importante et avec une montée rapide, c'est le moment de se poser des questions effectivement sur son épargne pour essayer de préserver son pouvoir d'achat en la matière, mais j'en reviens, la priorité est bien sûr sur ceux déjà qui n'ont pas forcément d'épargne, plutôt les ménages modestes, et par rapport à la vie du quotidien et donc les aspects de consommation.
Et voilà, ça boucle en tout cas avec cette convention Anacofi, c'est aussi la fête des adhérents, des conseillers en gestion de patrimoine, qui vont, pour une part, conseiller ses clients finaux. Donc allez voir votre conseiller en gestion de patrimoine, exposez-lui la situation, prenez un peu de temps, peut-être pour réallouer les actifs. C'était en tout cas votre message et ça fait tout à fait sens. Merci beaucoup Sébastien Aspinière, vous êtes chef de service financement de l'économie à la Direction Générale du Trésor. À très bientôt sur notre antenne.
Merci beaucoup, au revoir.
La convention annuelle de l'Anacofi, jeudi 7 avril 2022 au Carrousel du Louvre sur Radio Patrimoine.